beaucoup apprécié les cours d'été de cette faculté. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup reçu dans le contexte du GBU. Beaucoup plus nombreux encore sont ceux qui ont apprécié le dévouement de notre frère pour les rencontres à Logne. Et probablement que tous ont reçu par ces livres. Et si je suis allé outre-mer pour recevoir quelques enseignements concernant la parole de Dieu, c'est en partant avec quelques livres de notre frère qui m'ont énormément aidé. Et je loue le Seigneur pour les frères qu'il me donne. Et certains livres de M. Blocher m'ont aidé à mieux recevoir le texte biblique. Y a-t-il de plus beau cadeau à se faire que celui-là? Merci de m'avoir fait. Je vous invite à prier avant de donner la parole à notre orateur. Notre Père, merci pour ta parole, merci pour le privilège immense que tu nous accordes de pouvoir te rechercher, de pouvoir nous aider à mieux la comprendre, nous aider à mieux la partager, à mieux l'offrir autour de nous. Merci pour les frères et les sœurs que tu nous donnes, merci parce que tu es au milieu de nous. Et nous te demandons par ta grâce, ce matin encore, de nous permettre de faire quelques progrès dans notre attachement à ta parole et dans notre zèle pour la donner là où tu nous conduis. Bénis notre orateur et sois avec lui. Merci parce que tu veux notre bien à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Petite remarque d'organisation, nous n'aurons pas, après la conférence, la table ronde comme c'était indiqué dans le programme, mais tout simplement comme les deux.
Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre invitation, de m'embaucher comme un ouvrier de la 11e heure. Et je suis tout heureux de penser que j'aurai la même récompense que ceux qui triment depuis mardi matin ici. Évidemment, il est peut-être un peu gênant que je n'ai pas entendu les exposés qui ont traité déjà du sujet dont je dois vous entretenir. Heureusement, j'ai pu lire les deux études très fournies et admirablement charpentées de M. Appéré dans le livre issu d'une conférence à Toronto, bien sûr. Je ne sais pas si le titre du livre vous a déjà été indiqué, Loving the God of Truth. Donc, j'espère que grâce à cette lecture que j'ai pu faire, après avoir mis au point mes propres notes, mais mercredi soir, je vais me trouver à peu près dans l'axe de ce que vous avez déjà étudié ensemble. Avant d'aborder le sujet et de faire une lecture scripturaire, je voudrais aussi me décharger des salutations que j'ai reçues à transmettre. Le doyen de notre faculté, M. Émile Nicole, m'a bien chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Et aussi l'un de nos étudiants actuels qui est au service de l'église de Colmar, M. Gérald Thébault. Il ne pouvait pas venir pour la pastorale, entre autres à cause des cours à la faculté. Mais hier matin, je l'ai vu à la faculté, nous avons un petit déjeuner ensemble, et il m'a chargé également de salutations pour la pastorale. Je vous invite maintenant à suivre la lecture encore d'un psaume. Et il s'agit cette fois du psaume 11. Il servira un peu de préface pour notre réflexion sur l'Église face à la postmodernité. Psaume 11e du chef de chœur de David. De l'Éternel, je fais mon refuge. Comment me dites-vous à moi, prends la fuite comme un oiseau dans la montagne? Les criminels bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde, ils se tiennent, ils tirent dans l'ombre sur les gens au cœur droit. Quand les fondations sont bouleversées, le juste, que fait-il? L'Éternel est dans son temple, l'Éternel a dans les cieux son trône. Ses yeux observent du regard, ils sondent les fils d'Adam. L'Éternel sonde le juste et le criminel. L'amateur de violence, il le tient en détestation. Il fait pleuvoir sur les criminels des braises brûlantes et du souffrant flammé. Le sort qu'il leur assigne, c'est le souffle du Timoun. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront sa face. Quand les fondations sont bouleversées, l'expression du psaume convient au temps de la postmodernité, comme on dit, qui s'en prend avec jubilation aux fondations mêmes, aux fondations surtout. Vous vous rappelez peut-être que Paul Tillich, le théologien moderniste germano-américain, avait tiré de ce verset déjà un sermon fameux qui a servi de titre à un recueil de prédications publiées de lui, The Shaking of the Foundations. Et ce petit fait nous rappelle que la déconstruction caractéristique de notre fin de siècle, de notre fin de millénaire, n'est pas si nouvelle après tout, puisqu'en une autre génération, Paul Tillich avait déjà évoqué ce bouleversement fondamental. C'est dans ce sens que j'aime dire que la postmodernité est une modernité tardive, modernité post. Quand les fondations sont bouleversées, le juste, que fait-il? La plupart des exégètes et traducteurs comprennent ce que fait-il dans le sens de que peut-il faire, que doit-il faire. Et Tillich, dans son commentaire, justifie en philologue qu'il est cette traduction pour la forme de l'accompli que nous avons du verbe faire. Le juste, quand les fondations sont bouleversées, ainsi qu'elles paraissent l'être en notre temps, le juste, que peut-il faire, que doit-il faire? C'est cela même notre sujet en cette dernière étude de la série. Je vais résumer la réponse que je crois la plus appropriée, la moins inadéquate, en quelques formules choc, en quelques formules brèves en tout cas, qui seront un peu comme des mots d'ordre. Il y en aura 5 au total, je ne vous les dis pas à l'avance, mais je lance la première. Pas de panique. C'est la première chose, me semble-t-il, à nous dire. Ne pas fuir comme un oiseau effarouché, affolé dans la montagne. Et bien sûr, vous vous rendez compte que cette exhortation correspond exactement à ce que nous venons de méditer à partir d'autres psaumes. Si la nouveauté, d'abord, n'est pas telle qu'elle semble et qu'elle prétend être, nous pouvons peut-être nous rassurer un peu. Ça fait un moment que ça dure. Nos pères, bien avant Tillich même, ont tenu le coup lors des premières éruptions du volcan nietzschéen. Au fond, c'est une autre coulée de nietzschéisme le long des pentes de notre Etna qui fait ce mouvement qu'on appelle postmoderniste. D'autre part, nous pouvons nous rappeler que le phénomène reste partiel. Il entraîne une fraction du microcosme académique et médiatique qui aime se prendre pour le tout, mais qui ne l'est quand même pas. Et si l'on peut craindre, ce que je crains, que la mode, le mouvement postmoderniste des philosophes, d'un certain nombre de faiseurs d'opinion reflète effectivement une dérive générale des mentalités et des mœurs et qu'elle influence à son tour ce que pensent et que font et que sentent la plupart de nos contemporains, il ne faut quand même pas attribuer tous les articles du modernisme à la grande masse de ceux qui nous entourent. Ils en sont généralement assez loin. Il y a des éléments au moins qui résistent. Et d'après certains, en tout cas, même le postmodernisme montrerait quelques signes de faiblesse. Il y aurait déjà au moins quelques-uns qui s'en retireraient. Le théologien de Yale University, George Limbeck, qui peut être considéré comme un cousin des postmodernistes, malgré une relative modération, note que l'extrapolation indéfinie des courants présents est une procédure que l'on peut discuter pour toute tendance. Car toute tendance, si on la pousse assez loin, détruit les conditions de sa propre existence. Et il y a quelque chose de manifestement suicidaire dans le postmodernisme. Et puis surtout, pour nous protéger de la panique de l'oiseau, l'Éternel est dans son temple. Son trône est dans les cieux. Il surveille ce qui se passe. Ses yeux observent les fils d'Adam et il ne sommeille ni ne dort, comme encore on nous le rappelait. Il nous donne au contraire une promesse apaisante. Les hommes droits contempleront sa face. L'Éternel est dans son temple et nous sommes aussi son temple. Avec cette parole formelle, les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre l'Église de Dieu. Alors la vague postmoderniste peut passer, le solide fondement de Dieu reste debout. Deuxième formule que je vous propose, retenir ce qui est bon. Et bien sûr, un rappel de la parole de l'apôtre Paul, qui présuppose ce qu'il dit juste avant, qu'il s'agit d'examiner pour retenir ce qui est bon. Or, examiner, c'est ce que vous avez fait, et que j'ai aussi essayé, à ma mesure, de faire, comme j'ai pu, de ce phénomène qu'on appelle postmodernité. Retenir ce qui est bon, c'est une démarche biblique. Non seulement nous avons l'invitation à le faire, mais nous avons l'exemple apostolique qui nous montre, par exemple, l'apôtre Paul s'adressant aux philosophes épicuriens et stoïciens qui forment le grand conseil de l'Aréopage, en retenant ce qui est bon, ce qu'il peut mettre au service de la vérité du Seigneur dans les doctrines de ses philosophes. Il ne le fait pas autant pour les épicuriens que pour les stoïciens, et de nouveau, cela nous indique que tout ne se vaut pas dans le champ des opinions humaines, que les écarts par rapport à la norme sont extrêmement variables. Il emprunte beaucoup plus aux stoïciens, c'est un philosophe stoïcien qu'il cite expressément. Cependant, on a pu noter qu'il établit aussi quelques contacts avec les épicuriens. Le thème des dieux qui n'ont pas besoin d'être servis par des mains humaines était un thème de l'apologétique épicurienne, couramment. Et les épicuriens en avaient contre les superstitions communes. Donc l'apôtre joue très habilement de ce qu'il peut retenir de bon des deux côtés. Il le fait ailleurs aussi de façon plus théologique, parce qu'il s'agit de doctrines qui se prétendent chrétiennes. Je suis toujours confondu d'admiration devant l'efficacité de sa riposte au faux docteur de Colosse. Dans l'épître aux Colossiens, il réussit à reprendre des éléments de l'hérésie qu'il combat pour élargir sa propre vision, pour enrichir son enseignement christologique, pour répliquer à ses docteurs qui trouvent que la médiation de Jésus-Christ c'est trop peu et qui veulent ajouter alors d'autres médiations pour atteindre à la plénitude. À ces faux docteurs, il réplique en montrant que c'est en Christ que se trouve toute plénitude, que toutes les autres instances ont été créées en lui et pour lui. Il déploie une vision beaucoup plus large que celle de ses épîtres antérieures. Pour répliquer au mensonge et à l'erreur, il reforge et déploie la doctrine même qu'il enseigne.
Ainsi, il a en un sens retenu ce qui était bon, cette recherche de plénitude, mais il est capable de montrer que c'est du côté de la vérité de Jésus-Christ, telle qu'elle est en Jésus, comme il dit aux Éphésiens, que se trouve vraiment la plénitude, que ce qui pouvait les attirer n'était finalement que du toc, à côté de la beauté de l'original. C'est aussi, en un sens, ce que fait Jean. Jean semble répliquer à divers courants de fausses doctrines avec une synthèse plus large. Et en réfléchissant au sujet pour vous le présenter, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement la stratégie des apôtres, mais celle de notre Seigneur Jésus lui-même. Retenir ce qui est bon. Par rapport à la diversité des courants du judaïsme de son temps, on peut constater que Jésus récupère en quelque sorte un élément pratiquement dans chacun des parties. Et c'est le faire servir à la mise en valeur de son message. Il est sans doute assez proche des pharisiens. Sur une question comme celle de la résurrection, par exemple, Jésus est souscrit à l'enseignement des pharisiens. Et il a pu, de manière assez globale, dire que les pharisiens, siégeant dans la chair de Moïse, ou du docteur de la loi, mais ils étaient pharisiens dans leur très grande majorité, disaient ce qu'il fallait en effet faire. Il fallait agir comme ils disaient, mais non pas comme ils faisaient. Donc Jésus, effectivement, s'est montré proche des pharisiens. Certains auteurs juifs d'aujourd'hui feraient même de lui pratiquement un pharisien. Ce qui est sans nul doute exagéré, mais Jésus n'a pas été donc si loin d'eux sur un certain nombre de points. Les Sadducéens, je pense qu'il a ce point commun avec les Sadducéens qu'il dénonce les ajouts à la révélation que la tradition devient, que la tradition implique, devenant une sorte d'étouffoir pour la parole de Dieu même. Les Sadducéens étaient, à cet égard, des conservateurs qui refusaient ces strates supplémentaires revêtues en pratique d'une autorité semblable à celle du texte même. Ça avait un réflexe ultra-conservateur, mais Jésus, en dénonçant, Matthieu 15 par exemple, la loi dont toutes la loi des anciens, des docteurs, qui se surajoutent à la loi de Dieu, la tradition qui prive de son autorité le commandement de Dieu, converge, disons, avec ce que les Sadducéens pouvaient enseigner. Il y a des points communs entre le radicalisme essénien et celui de Jésus. Le rapport de Jésus aux Esséniens est l'un des traits les plus énigmatiques des évangiles, puisque les Esséniens ne sont pas nommés. Or, pourtant, ils sont présents en arrière-plan. Et rien n'illustre mieux, à mon avis, le rapport que l'utilisation par Jésus d'un argument essénien contre les pharisiens, mais avec une intention diamétralement opposée. L'inconséquence des pharisiens, si zélée pour le respect du sabbat, mais qui permettait qu'on tire son âne ou son bœuf de la fosse où il était tombé le jour du sabbat, cette inconséquence est dénoncée par les textes esséniens. Et Jésus reprend à son compte l'argument. Seulement, les Esséniens le faisaient pour aboutir à un légalisme, alors, entièrement rigoureux, sans la concession plus humaine des pharisiens, alors que Jésus, lui, renouvelle radicalement la compréhension du sabbat et libère du légalisme. Mais vous voyez, la convergence est quand même là. Et bien sûr, sur d'autres points, sur le thème même de la Nouvelle Alliance,
par exemple. Les Qumraniens s'appellent la communauté de la Nouvelle Alliance. Donc, là aussi, des points communs. Pas communs même avec les Zélotes. Quand Jésus prend le fouet et chasse les vendeurs du temple, disons, c'est un geste qui symboliquement a des résonances zélotes en son temps. Mais quand il dit au contraire qu'il faut rendre à César ce qui est à César, sécularisant en quelque sorte le pouvoir politique, il se rapproche davantage des Hérodiens. Donc notre Seigneur lui-même a retenu ce qui est bon dans cette diversité qui était celle de son temps. Le fondement théologique de cette démarche peut être désigné de diverses façons. On peut parler de l'œuvre de la grâce commune. La grâce commune, c'est-à-dire non pas la grâce qui sauve, mais la grâce qui préserve des conditions de vie acceptables dans le monde pécheur. Cette grâce commune peut être invoquée à propos de ces éléments récupérables dans la diversité des opinions humaines. On peut dire équivalemment impuissance du mal à créer. Le mal n'est pas un deuxième créateur. Le mal ne peut pas établir un ordre de choses qui soit indépendant. Le mal ne peut que parasiter. Il est impuissant à faire davantage. Ce qui veut dire encore persistance de la création de Dieu. Le monde reste la création de Dieu, malgré tous les dégâts que le mal y a opérés. Le monde reste au Seigneur avec tout ce qu'il contient. Cette compréhension de la grâce commune qui rattache cette grâce commune à l'idée du maintien de ce que Dieu a fait au commencement a été particulièrement mise en valeur chez Cornelius Van Til. Je le signale au passage, j'aime beaucoup sa formulation si brève. La grâce commune, c'est une grâce antécédente. Dieu, en donnant sa grâce commune, en faisant pleuvoir sur les méchants et sur les bons, lever son soleil sur les justes et sur les injustes, maintient son œuvre première. Il reste conséquent avec les dons qu'il a faits en tant que créateur. C'est une grâce qui se réfère à l'étape antérieure, qui n'est pas abolie, abrogée. Dans ce sens, la grâce commune est à interpréter comme grâce antécédente. Van Til dit « earlier grace ». Dans ces perspectives se règlent certaines controverses qui ont parfois fait rage, celle du point de contact ou d'accrochage. Vous savez qu'entre Émile Brunner et Karl Barth, les choses ont chauffé dans les années 30. Émile Brunner disait, il faut quand même reconnaître qu'il y a un point de contact ou d'accrochage, un Knüpfungspunkt, et Karl Barth a répondu dans un petit livre extrêmement dur, intitulé « Nein !» refusant toute idée de point de contact. Il y a aussi le débat sur le terrain commun entre croyants et incroyants. Y a-t-il un terrain commun? Dans les perspectives que je viens d'esquisser, il me semble qu'on doit dire qu'il n'y a aucun terrain commun au sens de connaissances partagées, d'un certain nombre de vérités qui seraient connues de la même façon, dans le même sens, par les croyants et par les incroyants. Mais on peut dire aussi qu'en un autre sens, c'est le terrain justement qui est commun. Tout le terrain, le territoire, il est à Dieu, c'est la création de Dieu. Et même sali, souillé par le péché, cette création continue de proclamer la gloire de Dieu, et les perfections invisibles de Dieu peuvent s'y discerner par l'intelligence. Cela est fermement enseigné. Donc le terrain, c'est le terrain qui est commun. Et c'est la réaction des individus au témoignage de ce terrain commun qui fait la différence ensuite et la différence en particulier entre la reconnaissance du vrai Dieu et toutes les idolâtries qui procèdent des réalités de la création, mais qui en tordent le sens, qui absolutisent ce qui devrait rester relatif et qui relativisent ce qui est absolu. Là, nous rapprochons du thème de la postmodernité. Et dans cette relation au terrain commun qui est le domaine du Seigneur lui-même, par droit de création et par préservation providentielle, alors il y a une multitude de points de contact qui sont toujours en même temps des points de conflit. Les points de contact pourraient être, selon la façon dont les gens réagissent au témoignage du terrain qui appartient à Dieu, les lieux où ils n'ont pas trop déformé ce témoignage, où ils le reçoivent non certainement dans toute sa pureté, mais d'une façon qui peut être reprise et corrigée, servir, comme les citations que l'apôtre Paul fait au chapitre 17 des Actes, dans son discours. Les stoïciens ont du témoignage de Dieu reconnu quelque chose. Alors, c'est déformé dans leur système, mais Paul peut extraire un aveu de lui, nous sommes la race, de ce système, et l'insérer dans un contexte où il prend son vrai sens, où il sert le témoignage de Dieu. Parfois, on parle aussi de l'incarnation comme d'un fondement de cette démarche qui retient ce qui est bon. Que dire à ce propos? Je suis prêt à souscrire à la thèse que l'incarnation aussi nous encourage dans cette direction, selon qu'elle présuppose la création et qu'elle en confirme l'ordre et le sens. Pas d'incarnation s'il n'y a pas la création au préalable, et y compris la création de l'homme en image de Dieu, qui est même évoquée dans la généalogie que l'évangile de Luc nous propose par la formule Adam, fils de Dieu. Enfin, le fils étant sous-entendu dans la généalogie. Mais Adam, fils de Dieu, il y a un lien avec la possibilité même de l'incarnation, semble-t-il. Et l'incarnation, donc, confirme les vérités créationnelles. C'est ce qui sert aussi de méthode à Oliver O'Donovan dans un livre très très remarquable, qui est un livre d'éthique fondamentale, intitulé en anglais « La résurrection et l'ordre moral », mais pas au sens « ordre moral » de la formule politique française. Hein, mais le livre est traduit, mais je ne sais pas son titre en français. Il est traduit aux Presses universitaires de France.
C'est l'éthique et résurrection.
C'est ça, merci bien. Donc, c'est sa méthode. La résurrection confirme l'ordre créationnel. Et à partir de là, donc, croire au Christ ressuscité nous lie à une éthique qui peut être développée comme il la développe. Mais je dois signaler simultanément que je redoute un usage qui me paraît immodéré et surtout décalé du thème de l'incarnation lorsqu'on réfléchit au rapport des chrétiens à la culture qui les environne. Trop souvent, me semble-t-il, on court-circuite et on dit l'incarnation, c'est un modèle d'implication. Dieu s'est incarné, nous devons nous incarner dans notre culture, dans tout ce qui se passe autour de nous, faire corps en quelque sorte avec les réalités contemporaines. Je ne vois pas dans l'écriture l'usage du thème de l'incarnation qui ressemble à ce discours, qui est pourtant devenu assez commun chez les évangéliques même, dans les deux dernières générations sans doute, ces dernières décennies. Il me semble que c'est un dérapage qui prend très abstraitement l'incarnation comme un principe qu'on appliquerait en tout temps. Or, dans l'écriture, l'incarnation, c'est un événement unique. Nous n'avons pas besoin de nous incarner, nous sommes dans la chair. L'incarnation, c'est l'événement unique du Fils de Dieu
descendant dans le scaphandre de notre humanité limitée. Et ce n'est pas un principe. Alors, je suis quelque peu réticent devant l'extrapolation à laquelle certains se livrent sans réserve à ce propos. Alors, retenir ce qui est bon, donc, sur cette fondation théologique que je viens de résumer, qu'est-ce que cela veut dire dans le cas de la postmodernité ou de ces tendances majeures? Je pense que cela veut dire d'abord recueillir sa critique ou sa polémique contre les erreurs adverses. C'est un trait assez général tout au long de l'histoire de la pensée humaine. La force des doctrines, des propositions, c'est généralement la faiblesse de celles qu'elles dénoncent et veulent remplacer. Le devenir, le progrès, si on veut, le progrès en zigzag de la pensée humaine, suit souvent ce modèle. Une doctrine est établie, et viennent ceux qui discernent ses faiblesses, ses lacunes, et qui le disent très fort, et qui, sur ces points, trouvent mieux. La force de la nouvelle doctrine, c'est la faiblesse de la précédente, de laquelle elle s'autorise. Et puis, il faudra un certain temps pour qu'on s'aperçoive que la nouvelle doctrine a aussi des faiblesses que la génération d'après fera apparaître. Alors, la force du postmodernisme, c'est la faiblesse de la modernité dans ses formes antérieures, et en particulier, c'est le refus des totalitarismes, de l'arrogance de la raison et des systèmes qui prétendent tout embrasser que cette raison construisait. Le rationalisme issu des Lumières, et en particulier une forme comme celle du marxisme, je pense que nous pouvons être reconnaissants que leur prestige en ait été abattu par la montée de la postmodernité. Pour les plus âgés, plus sur les moins jeunes d'entre nous, dont je fais partie, ça a vraiment été un événement majeur. Je me rappelle qu'au temps de mes études, et encore pendant toute la première partie de mon enseignement, le marxisme était le dogme, la grande structure, la philosophie indépassable de notre temps, disait Sartre, l'humus de toute pensée vivante. Vraiment, c'était la façon de penser dont seuls quelques hérétiques pouvaient contester l'autorité entière. Et puis, voilà, ça s'est effondré, ça n'a pas été remplacé. Et je pense que nous pouvons apprécier qu'il y a lieu de le faire. Nous pouvons saluer la promotion de valeurs qui sont liées à cette lutte contre les totalitarismes, malgré leurs ambiguïtés. La valeur de la tolérance et de la défense des minorités. Certainement, une motivation morale se laisse voir chez plusieurs des promoteurs de la postmodernité. Et on considère que sans être postmoderne, Emmanuel Levinas, par exemple, le grand penseur juif, a été l'un des pères, peut-être, de la postmodernité. J'ai lu que Derrida a suivi les cours de Levinas. Levinas a été le grand adversaire du totalitarisme, de l'être englobant, et cela par motivation d'abord morale. C'est l'exigence du respect de la vie de l'autre qu'il pousse jusqu'à un extrême absurde. Finalement, chaque homme est sous l'obligation stricte d'être le Christ, le serviteur souffrant d'Asie 53. Il doit se considérer comme sous l'obligation absolument stricte. Lévinas parle d'otage. De son bourreau même. Il doit expier les péchés de son bourreau même. Voilà ce qui incombe à chacun. Une exigence morale d'une intensité, d'une incandescence. Et il fait partie de ceux qui ont préparé la postmodernité. Reconnaître aussi une mesure de lucidité sur le conditionnement historique et social de la pensée, jusque dans les sciences dites dures, physique, biologie, avec le rôle des présupposés inévitables un rôle que les néo-calvinistes d'alors, avec Calper, ont mis en lumière à une époque où on ne s'en doutait pas généralement. Et là aussi, la postmodernité a fait un progrès dans la lucidité. Il y aurait encore un autre thème pour lequel j'hésite. Je le signale au passage, j'essaie d'y réfléchir, mais je ne hasarderai pas à conclure. Je pense que tout en maintenant, parce que c'est un thème biblique très fort, la permanence éternelle du vrai, la vérité établie pour toujours, et Dieu qui ne change pas, et Jésus-Christ le même, nous pouvons apprendre quelque chose du lien entre histoire et vérité que fait le postmodernisme, que nous pouvons récuser le dualisme entre histoire et vérité qui a été caractéristique de la modernité. Le penseur Lessing, penseur des Lumières, au XVIIIe siècle, est très connu pour avoir parlé d'un affreux fossé qui sépare les vérités essentielles, celles qui concernent la foi, et puis les faits historiques, les vérités contingentes de l'histoire. Pour lui, aucun rapport. Et l'histoire, donc, ne peut avoir aucun intérêt pour la foi qui s'attache à une vérité intemporelle. À coup sûr, ce n'est pas l'optique biblique. Je suis très frappé par l'expression qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, verset 12, qui parle de la présente vérité. Littéralement dans l'original, parce que les traductions, c'est, la formule est tellement frappante que les traductions tournent un peu autour, mais c'est parousse à l'éternel. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Un avènement de la vérité dans l'histoire qui n'est pas un simple accident. Pour la vérité, au sens biblique, la vérité du Seigneur. Car c'est un Dieu qui lui-même s'engage effectivement dans l'histoire, le Dieu vivant pour qui l'histoire compte. Troisième formule, résister toujours. Résister. Le mot d'ordre de Marie Durand reste d'actualité en cette année de commémoration, et nous n'avons pas à le laisser, soit dit entre nous, à une frange du mouvement évangélique. Non, résister, effectivement, nous y sommes appelés. Car les évangéliques ne sont pas à l'abri de la séduction. Ils peuvent ne pas résister comme il faut résister. Il y a une frange de nos intellectuels évangéliques qui a des complaisances pour la postmodernité. Et j'en suis un peu inquiet. Je n'ai pas lu le livre moi-même, mais d'après une recension fournie que j'ai lue, des citations, j'ai l'impression que deux auteurs que j'ai beaucoup appréciés précédemment, Brian Walsh et Richard Middleton, dont la collection Alliance chez Sator a publié un ouvrage sur les visions du monde, donc des auteurs de notre sérail, dans leur livre récent, intitulé en anglais que la vérité est plus étrange qu'elle n'était, que dans ce livre-là, ils font des concessions très sérieuses aux conceptions postmodernistes. J'ai lu des articles, Third Way par exemple, allant dans ce sens aussi. C'est principalement par attrait pour les valeurs morales qui sont associés à la postmodernité, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et parfois avec une stratégie de distinction. Oui, d'accord, le courant de Nietzsche, de Foucault, de Derrida, d'accord, ça nous ne pouvons pas nous y rattacher, mais il y a un postmodernisme acceptable, en quelque sorte, et même dont nous pouvons nous réjouir. À mon avis, c'est une dangereuse myopie. Et il y a des pressions de notre environnement, dans l'air que nous respirons, il y a des choses qui nous portent à céder. Ça fait bien d'être dans le mouvement, ne pas avoir l'air d'être toujours des gens qui disent non. Et le conformisme, c'est une tentation. J'affirme que la logique postmoderniste est essentiellement relativiste et nihiliste. Et que quand on commence à glisser sur cette pente, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Spirituellement, je suis persuadé, je ne peux pas le prouver bien sûr, mais je rends quelque sorte témoignage comme conclusion de ce que j'ai pu étudier. Spirituellement, le ressort le plus profond, c'est la tentative d'échapper à ce regard de Dieu dont parle le psaume, qui sonde les fils d'Adam. C'est ce regard, mais le postmoderniste le considère comme intolérable. C'est vraiment ce qui attente à ce qui pour lui est le plus cher. Ça fait de Dieu un big brother absolument insupportable. Oui, voilà ce qu'il refuse. Alors il refuse bien sûr parce qu'il ne connaît pas ce regard tel qu'il est. Mais en même temps, il refuse le droit de ce regard, le droit du Seigneur. Et nous ne pouvons pas accepter de compromis avec cette inspiration profonde. Alors l'illusion qu'on peut s'arrêter à mi-pente, qu'on peut se contenter d'un relativisme relatif, c'est l'expression qu'emploient certains, vient, comme je l'ai tenté de l'expliquer au colloque organisé à la faculté, à la fin du mois de mars, de ce qu'on observe en fait bien des gens qui s'arrêtent à mi-pente, qui acceptent un certain nombre d'éléments de la postmodernité, mais qui en même temps continuent à conduire leur vie quotidienne de façon assez décente, de respecter des valeurs, de loyauté, d'honnêteté. Il y a effectivement des gens qui ne semblent pas versés au fond de l'abîme, alors qu'ils ont pourtant nié, il semble qu'une majorité d'Américains d'après un sondage, nié qu'il y ait une vérité absolue. Il y a des gens qui se tiennent à mi-distance. Et généralement, le plaidoyer de ceux qui veulent faire cesser les signaux d'alarme, c'est de dire, mais voyez, vous vous alarmez à tort. En fait, ça se passe très bien. En fait, les gens ne perdent pas tout sens de la vie. Mon analyse à cet endroit est la suivante. Je vois bien que les gens s'arrêtent. Et il y a nécessité vitale s'ils veulent, en fait, survivre. Mais ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Ils ne peuvent pas en rendre compte. Si on leur demande pourquoi ils s'arrêtent à cet endroit plutôt que de descendre un peu plus bas ou de rester un peu plus haut, ils ne peuvent pas justifier. Ce qui veut dire que leur situation n'est pas du tout rassurante. Leur situation montre simplement, à mes yeux, que leur pratique dément leur théorie. Que leur théorie n'est pas viable. Et ce n'est donc pas du tout un élément que je pourrais porter au crédit de la théorie postmoderniste. Si nous avions le temps, mais là je vois qu'on le retourne, donc je ne vais pas m'y livrer, nous pourrions voir de la même façon comment des ambiguïtés se glissent dans la critique du fondationalisme. Ce n'est pas tout à fait le postmodernisme, mais c'en est très près. Vous avez un puissant mouvement, et avec des penseurs d'étiquette chrétienne et même chrétienne évangélique d'origine calviniste, avec Plantinga par exemple, Alvin Plantinga, qui s'attaque très fortement à l'idée qu'on doit donner à la connaissance une fondation. Et leur position s'appelle anti-fondationaliste. Et j'ai étudié au moins deux articles dans des revues évangéliques, dans l'Evangelical Consolé, d'une part, et dans le Journal Européen de Théologie, d'autre part. Le Journal Européen de Théologie, auquel je suis associé, avec M. Sylvain Romerowski aussi, deux articles qui sont antifondationalistes. Et je crois pouvoir faire une critique de l'argumentation qui est déployée. Mais je vous l'épargne. Et je passe à l'application à l'étude de la Bible. S'il y a des profits à glaner, ça et là, dans
les nouveaux procédés d'études bibliques qui ont été expérimentés sous les auspices de la postmodernité, il y en a. Je pense malgré tout que le bilan est terriblement négatif. Alors, profit positif, oui, beaucoup plus de souplesse dans la manière d'aborder les textes et le discernement d'une beaucoup plus grande diversité que l'on l'imaginait de façons de dire, de façons de faire passer le message. Que les auteurs bibliques aient très souvent joué d'ambiguïté, laissé les choses en suspens, pour que le lecteur s'implique, pour qu'il ne soit pas passif. Eh bien, c'est quelque chose qu'on a découvert, et je crois que c'est une découverte extrêmement heureuse, effectivement. Nous avons trop souvent lu la Bible d'une manière aplatie, en quelque sorte. Et il y a des stratégies extrêmement fines des auteurs. C'est bien les auteurs qui en ont disposé ainsi, conduits par l'Esprit de Dieu, mais l'étude biblique de type postmoderniste, mettant l'accent sur l'activité du lecteur, a permis de prendre conscience de certains faits textuels qu'on avait ignorés. Là, je reconnais. Je n'en ai pas encore fait tout mon profit, mais je dis, oui, là, nous pouvons tout à fait accueillir ce qui nous est suggéré. Mais l'idée que le sens procède principalement du lecteur, qu'il n'appartienne pas à l'auteur, par exemple, me semble là tout à fait à l'opposé de ce que la Bible elle-même nous suggère à ce propos. Et certains postmodernistes, d'ailleurs, le disent très très clairement. Un certain Mark Taylor, qui est l'un des théologiens postmodernistes en vue aux États-Unis, dit bien que c'est la transcription, quelque chose comme ça, herméneutique de la mort de Dieu. La mort de l'auteur, c'est-à-dire l'élimination de l'auteur, il ne compte plus pour le sens, mais on fait du texte ce qu'on veut, un prétexte d'ingéniosité, et un autre Frisch dit, peu importe que ce soit vrai ou non, l'important c'est que ce soit intéressant. Cela, c'est finalement l'application herméneutique de la mort de Dieu. Respecter l'auteur, c'est au bout du compte respecter le premier, celui qui parle par l'auteur humain, l'auteur majuscule, Dieu. Un ancien évangélique, David Clines, qui est très très doué, et qui est devenu aussi un des biblistes postmodernistes les plus brillants. Et dans sa préface à un livre intitulé « Que fait Ève pour aider ?» Si elle est une Ève. « What does Eve do to help ?» Et il dit carrément que c'est l'idée d'autorité de la Bible qu'il faut éliminer. Toute autorité qui aurait des résonances juridiques. Tout à fait exclure. Et il y a un autre article de lui intitulé « Un monde établi sur l'eau » qui s'attache au psaume 24. C'est un article que M. Laurent Gautron, il y a quelques années, m'a passé. Et c'est incroyable. Quand je l'ai lu, j'ai vraiment cru que c'était un pastiche. Que l'intention de Clines, c'était de se moquer des déconstructionnistes, des postmodernistes. Tellement, moi, ça me paraît énorme et vulnérable à une critique immédiate. Mais non, j'étais jusqu'au bout. C'est vraiment la position qu'il défend. Et sa conclusion est tout à fait nette, je voudrais vous la lire. Hein. Ce que j'ai voulu montrer, c'est la fragilité, la volatilité du texte, sa faiblesse et son incohérence. Ce n'était pas pour recommander qu'on l'abandonne ou qu'on le remplace par un autre texte plus fort ou moins discutable, mais c'était pour indiquer la fragilité des textes en général, le fait que les interprétations ne peuvent pas se conclure, et pourtant qu'il y a une impulsion pour les combiner un peu n'importe comment, toujours à nouveau. Tisser et retisser les interprétations qui signifieront quelque chose pour quelqu'un, qui obtiendront un cri de reconnaissance, ou en tout cas un grognement d'acceptation d'une communauté interprétative, cela reconsolide les textes. C'est le mieux que nous puissions espérer faire. Voilà. Alors, je crois que les enjeux par rapport au rôle de la parole de Dieu, parole de vie, la seule qui est capable d'engendrer à la vie nouvelle, les enjeux sont manifestes avec une telle citation. Donc, résistez. Quatrièmement, interprétez ce qui se passe. Interprétez le phénomène. Discerner les signes des temps. Grosso modo, je suggère que trois grandes méthodes d'interprétation s'offrent à nous et qui ne sont pas incompatibles, qu'on peut très bien associer. On peut interpréter à partir des facteurs matériels, de ce que les marxistes appelleraient infrastructure, l'évolution des techniques, les grandes tendances économiques, les facteurs démographiques aussi. Je pense qu'on peut dire que c'est la note que Chonu a fait entendre, Pierre Chonu, de la manière la plus caractéristique, l'importance de la démographie pour l'interprétation du mouvement de l'histoire. Tout cela correspond au fait que l'homme est chair. L'homme est solidaire du monde et de sa réalité matérielle. La deuxième façon d'interpréter, c'est de dérouler la logique interne qui régit la vie des idées. Les idées, analogiquement, ont comme une vie. Elles naissent, elles s'affermissent, elles étendent leur rayonnement, elles vieillissent, elles finissent parfois par mourir. Il y a une logique interne. J'ai un peu évoqué ce qui se passe tout à l'heure à propos des générations successives, des faiblesses qui apparaissent au bout d'un certain temps et qui sont dénoncées, et du balancier alors qui part dans l'autre direction. On peut interpréter en fonction de cette logique de la vie des idées. Et on peut interpréter en troisième lieu en scrutant les prophéties prédictives de l'écriture. La postmodernité, selon ce schéma, on peut dire d'abord qu'elle accompagne la société de consommation massive, avec le rôle qui joue la publicité. Il y a une correspondance évidente entre les mœurs qu'induisent notre système économique, qui lui-même est possible par la technique. Dans un monde artificiel, mobile, un monde atomisé, tout cela aussi est lié aux techniques, un monde électronique. Le postmodernisme apparaît comme une expression d'un état de choses, d'un ensemble de facteurs matériels. Selon la logique des idées, je pense qu'on peut dire qu'il marque ce postmodernisme, l'aboutissement de l'individualisme autonomiste et du pluralisme égalitaire qui a caractérisé la démocratie. Et vu sous cet angle, alors, il est l'aboutissement de la modernité. C'est vraiment la modernité post, la modernité peut-être en train de se décomposer, mais selon sa propre logique. Et cela, Gilles Lipovetsky, dont je pense M. Appéré a peut-être cité le nom aussi, le montre extrêmement bien, avec la même idole que servent les modernes depuis deux siècles, la liberté. Je pense qu'on peut dire que ce qui meut jusqu'à la joie les promoteurs des tendances postmodernes, c'est que qu'ainsi il y a pleine libération, plus de sens déterminé par l'auteur, plus d'unicité à respecter. Liberté, liberté. On joue avec les textes, on joue avec les structures, même en science. Il n'y a plus aucune contrainte. Jusqu'à l'extrême, un postmoderniste extrême, Feyerabend, dit n'importe quoi peut aller. Pourvu que ça plaise, pourvu qu'il y ait une communauté pour en être d'accord. Liberté, c'est magnifique, cette liberté. nous sommes plus liés au signifié, c'est la danse des signes, c'est le carnaval, comme dit Ivan Husser. Parce que la valeur qui subsiste, c'est la liberté. Or, cet attachement à la liberté et à l'individu, c'est une vérité chrétienne devenue folle. Là, je reprends l'analyse qui est foncièrement l'analyse néo-calviniste. L'humanisme moderne représente la sécularisation de motifs chrétiens déracinés de leur terreau, arrachés du contexte qui leur donne leur sens biblique. Mais l'origine est biblique. Et nous voyons de quelle façon donc ces éléments arrachés à l'ensemble biblique voient leur sens s'altérer progressivement et voient leur affirmation devenir à la fois plus stridente et plus incohérente. Interprétation donc selon cette logique interne. Et puis par rapport aux prophéties, alors, que dire? Il me semble que nous allons assez visiblement vers cette anomia dont parle le second chapitre de la seconde aux Thessaloniciens, l'homme de l'anomia. Les sociologues contemporains utilisent le mot anomie, qui est la simple transcription française du terme grec. Certes, ce n'est pas exactement dans le même sens, il ne s'agit pas de faire s'équivaloir purement et simplement les deux mots, mais c'est peut-être quand même significatif. Et je pense à ces prophéties qui soulignent pour les derniers temps le refus de l'autorité paternelle, désobéissant à leurs parents, de Timothée 3, verset 2, et puis déjà Romains. Là, Romains ne met pas spécialement en rapport avec la fin des temps, mais les temps de la fin commencent dès le Nouveau Testament, et qui met en rapport là avec l'homosexualité. Là aussi, un trait de dédifférenciation, de glissement allègre dans le chaos, tout à fait caractéristique de ces dernières années. La religion du plaisir, beaucoup d'hédonisme, et la seconde à Timothée dit « aimant le plaisir plus que Dieu ». Il me semble que les prophéties nous annoncent cependant un totalitarisme final. Et nous n'y sommes pas. Si cette lecture est juste, il me semble qu'on doit dire que nous pourrions être dans une phase pénultième. Étant donné l'effritement, la dissolution des structures morales chez les individus, et même des structures psychologiques d'ailleurs. J'ai entendu Tony Hanna très là-dessus, par exemple. On peut, je crois, énoncer qu'un retournement totalitaire de ce chaos démocratique en dictature serait très facile. Car ce qui résiste à la dictature, ce sont des gens courageux, à nos convictions très fermes, inébranlables, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, payer de leur vie, parce que ils ne sont pas égocentrés. Ce sont des hommes comme ça qui sont un rempart contre la dictature. Or, il semble qu'ils soient de moins en moins nombreux. Ils ne correspondent pas au profil postmoderniste. La stratégie procède de l'analyse. Comprenant les enjeux, et malgré les tentations, car il s'agit de nager à contre-courant, nous avons ces facteurs objectifs matériels qui jouent contre nous. Nous sommes appelés à rejeter l'idole de la liberté en particulier. Et cela implique non seulement de le faire en théorie, mais en pratique, je pense à deux traits de vie chrétienne qui tendent à s'estomper, me semble-t-il, chez les évangéliques eux-mêmes, la discipline personnelle et le renoncement, l'appel au sacrifice. Et puis simultanément, alors, essayer de suivre les traces de Paul ou de Jean en montrant que la vérité est tellement plus belle que tous les attraits de ces vérité mensongère que nous propose
avec tous les phares pour attirer les regards, les promoteurs de la postmodernité. Et le thème que j'aimerais pouvoir développer à ce propos serait celui de la théonomie, au sens propre du terme. Montrer que lorsque Dieu nous régit, ce n'est pas un autre étranger à nous-mêmes qui du coup violerait notre liberté. L'autonomie n'est qu'une illusion de liberté. Et Dieu, à la place, ne veut pas nous soumettre à une hétéronomie, une loi étrangère, mais à sa loi qui est la loi la plus profonde de notre être, selon qu'il nous est plus intérieur que le plus intérieur de nous-mêmes. J'aime citer cette parole d'Augustin. Théonomie, et non pas hétéronomie. Ou selon une autre formule que j'emprunte à un catholique d'ailleurs, Dieu est tout autre qu'un autre. Dieu, comme notre Créateur, est le seul capable, par son règne en nous et sur nous, de nous rendre libres et finalement même de nous faire régner avec lui. Et puis, dernière formule que je propose, compatir avec ceux qui se perdent. Que Dieu est tout autre que ce qu'ils imaginent, bien sûr, ils ne s'en rendent pas compte. Nos brillants intellectuels sont des aveugles conduisant des aveugles. Et le regard de l'Éternel, qui sonde les humains, n'y voit pas seulement la violence détestable, la mauvaise foi, la cruauté, l'injustice. L'Éternel, voyant les foules, fut ému de compassion à leur sujet, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je mets l'Éternel, j'ai le droit. Parce que vous savez que le Seigneur, c'est l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, lorsque le titre de Seigneur est employé, c'était l'équivalent grec ordinaire dans la Bible des Juifs parlant grec du nom de l'Éternel. Notre Seigneur Jésus, qui a fut ému de compassion, c'est l'Éternel, lui-même venu parmi nous. Les transgresseurs sont victimes, en même temps que fautifs. Les transgresseurs postmodernes aussi. Et il nous faut discerner la détresse sous l'insolence, le désespoir sous les prétentions à jouer. C'est souvent comme une politesse, c'est comme ça qu'ils le sentent, du désespoir, qu'ils disent, qu'ils s'amusent beaucoup. Certes, je ne veux pas par là exténuer la responsabilité. Nous n'empiétons pas sur le jugement de Dieu. Si les brebis souffrent n'ayant pas de berger, il est vrai qu'elles n'ont pas de berger parce qu'elles n'en veulent pas. Mais aussi, si elles n'en veulent pas, c'est parce qu'elles ne le connaissent pas. À nous, qui sommes retournés vers le berger et gardien de notre âme, parce que, en nous-mêmes, nous ne sommes que des brebis égarées, blessées et orgueilleuses, nous aussi, il nous sied de les voir sous l'angle de leur détresse, avec la compassion de Jésus. Cela veut dire que nous aurons travaillé sur les arguments, que les doctrines cesseront de nous paraître déstabilisantes. Tant que nous nous sentons vulnérables sous la menace, nous voyons des ennemis. Mais quand nous sommes assurés en Dieu que nous avons trouvé en lui notre refuge, alors nous pouvons voir les penseurs postmodernes pour ce qu'ils sont. Des gens qui se perdent et qui souffrent. Et il y a urgence. Nous évoquions les prophéties. Les brebis sont prêtes à se livrer au berger fou et faux de Zacharie 11, la fin de Zacharie 11, le berger maudit. La compassion urgente relaie l'écho de la voix du bon berger pour que parmi les postmodernes, plusieurs reconnaissent sa voix et se mettent à le suivre. Notre espoir, c'est qu'il donnera même aux postmodernes égarés la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et se dégager des pièges du diable qui les a capturés. Merci pour votre attention.